France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Aujourd'hui, en ce mercredi 30 juillet, nous sommes un bon nombre de Français à nous réjouir des températures fraîches de ces derniers jours et redouter un retour de la canicule. Certains ont plus de raisons que d'autres de craindre une vague de chaleur intense car nous ne sommes pas tous égaux face au thermomètre qui grimpe. Alors ce matin, nous allons nous intéresser aux femmes enceintes et aux bébés qui sont avec les personnes âgées les plus vulnérables en cette période estivale. Si vous êtes enceinte, vous avez peut-être les jambes lourdes, des douleurs pelviennes qui rendent la marche difficile ou vous êtes tout simplement angoissé face à la perspective de l'accouchement. Si vous êtes de jeunes parents, vous vous demandez peut-être s'il faut allaiter votre bébé ou non, s'il faut le coucher sur le dos ou sur le ventre, comme le recommande votre grand-mère, et si vous redormirez un jour plus de 3 heures d'affilée. La réponse à ces questions et à toutes celles que vous voudrez bien nous poser au 01 45 24 7000, c'est tout de suite avec une équipe d'experts bien décidés à vous rassurer. Grand Bien vous fasse, c'est tout l'été en direct pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Vous vous en sortez avec Sophie? Vous avez l'air fatiguée.
Sans doute parce qu'on dort pas.
Mais vous en faites pas. Les nuits sans dormir, ça dure 10 ans. Surprise.
Et vous n'arriverez jamais à vous faire à cette musique pour les tout-petits. Si je savais où vivent les Wiggles, et je vous assure que je fais des recherches, je les passerai volontiers à la Kalachnikov.
Quand on est jeune parent, et on a tous été dans ce cas, on se doute pas de ce qui nous attend.
On sait rien.
Oui, c'est vrai. On a eu 9 mois pour se préparer et on continue quand même à se planter la moitié du temps.
Oui, c'est certain.
Un petit peu d'humour sur les petits tracas de la parentalité avec un extrait du film Bébé mode d'emploi sorti en 2010. Ce matin, je l'ai dit, 3 experts ont pour mission de répondre aux principales préoccupations des futurs et des jeunes parents. À commencer par vous, bonjour Chaline Gaillot.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes une des sages-femmes les plus populaires de France sur Instagram. Vous dispensez des conseils à vos 240 000 abonnés. Conseils compilés dans le grand guide de ma grossesse sereine. Je précise sereine. Édité chez Marabout. Donc avec vous, on va s'adresser aux femmes enceintes, mais aussi à leur entourage.
Complètement, parce que l'entourage, c'est essentiel pour bien vivre sa grossesse, mais aussi sa parentalité.
On va voir ça ensemble. Bonjour Jules Fougère.
Bonjour.
Devrais-je dire docteur Jules Fougère?
Tout
vous êtes
fait.
Pédiatre au CHU de Rouen. Vous êtes également chroniqueur dans la Maison des maternelles, émission de référence sur la parentalité. Auteur du guide anti-panique à destination des jeunes parents, édité chez Marabout. Avec vous, on va faire un petit point sur les premiers mois avec bébé. Tout ce qu'il faut faire ou pas.
Ben oui, et surtout avec cette période-là d'été où on va avoir peur de la chaleur, on va pas savoir comment réagir, donc on va vous donner quelques infos et quelques tips.
Bonjour Aurélie Calais.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialiste de l'enfant et de la famille, co-autrice de Je ne dors pas, édité chez Deux Books Supérieurs, que s'arrachent tous les parents qui ont des nuits en pointillé. On est d'accord, ça passe?
Ça passe toujours.
Voilà,
pas d'inquiétude.
Voilà qui est rassurant. Enfin, notre envoyée spéciale sur le front de la grossesse en plein été ce matin, c'est Rosa Burstein, l'humoriste qui sera avec nous. On espère qu'elle ne va pas perdre les os en direct. Rosa, si vous nous écoutez, vous attendez au moins 11 heures. Alors, mis à part la chaleur, il y a de bonnes raisons de parler bébé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez que les données les plus récentes publiées par l'INSEE précisent que juillet serait le mois de l'année où naissent le plus d'enfants, et ce depuis 2013. Docteur Fougère, est-ce qu'il existe une explication rationnelle pour ça?
Alors, une explication rationnelle, je ne connais pas forcément. Par contre, on peut imaginer que 9 mois avant, il a pu y avoir une période propice à la création d'un mini-être humain. Donc voilà, je ne sais pas si Charline, vous avez, vous, une idée plus précise. Mais...
Moi, ça m'étonne, je ne savais pas que c'était juillet. Je pensais que ça allait être, par exemple, septembre, souvent 9 mois après Nouvel An.
Aussi septembre.
Ah,
voilà. Mais bon, globalement, les Français donc, ont des rapports sexuels plus importants en hiver. On a donc compris. Alors, je vais être très transparente avec vous. Je suis dans l'obligation de vous dire que moi-même, j'ai été enceinte au mois d'août, puisque j'ai accouché de mon fils Noé le 22 août 2016. Je vais donc revivre avec tous nos auditeurs très intensément tout ce qui est pieds gonflés, douleurs au dos, sommeil en dents de scie.
Mais je n'étais pas accompagnée, et c'était une erreur, par une bonne fée comme vous, Charline Gaillot. Pour commencer, est-ce que, d'après les témoignages de vos patientes, est-ce que vous diriez que c'est particulier d'être enceinte en été ?
Complètement, c'est particulier parce que déjà, pendant la grossesse, peu importe la saison de l'année, on observe des modifications normales et non inquiétantes au niveau du corps. Par exemple, les jambes qui gonflent, comme vous l'avez dit, plus de douleurs, plus de fatigue, des nuits hachées avant même que le bébé naisse. Or, c'est également le cas quand on n'est pas enceinte et que c'est l'été. Donc si on combine les deux, grossesse et été, eh bien ça majore des signes qu'on a déjà pendant la grossesse. Les jambes qui gonflent encore plus, des nuits qui sont encore moins reposantes, un besoin de s'hydrater encore plus important. Et donc c'est possible qu'on subisse davantage les maux de la grossesse pendant l'été que pendant l'hiver.
J'imagine que c'est pas pareil quand on est enceinte au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse pendant l'été.
Effectivement, on sait qu'au plus on avance pendant la grossesse, au plus on peut être fatigué, au plus on ressent ses symptômes et donc on le tolère moins facilement, d'autant plus qu'on bouge parfois aussi moins. Et donc, on a plus de mal à lutter contre ces symptômes. Par exemple, si je prends l'exemple des jambes gonflées, l'un des meilleurs conseils, c'est de rester active, c'est de bouger, de marcher. Or, eh bien, on a plus envie de dormir au troisième trimestre. Parfois, on se sent plus lourde. Et donc, on a plus de mal à lutter contre ces maux de grossesse.
Est-ce que la chaleur, puisqu'on parle de l'été, on est dans deux jours au mois d'août, deux jours ou demain ? Non, c'est dans deux jours. Est-ce que la chaleur, c'est un facteur de risque pour les femmes enceintes ?
Alors, ça peut en être un. Je pense que c'est important de le voir comme tel, en tout cas pour mettre en place les bonnes habitudes au quotidien. En fait, on sait que si on ne fait pas attention à la chaleur, si on n'écoute pas les signaux de notre corps, eh bien on peut observer plus de malaise vago pendant l'été pour les femmes enceintes. Je vais vraiment beaucoup parler de circulation sanguine parce que pendant la grossesse, on sait que nos vaisseaux sont plus relâchés et c'est pour ça qu'on a plus les jambes qui gonflent. Et donc, c'est eux qui ramènent le sang des pieds jusqu'à la tête. Et la chaleur, eh bien, ça relâche encore plus ces vaisseaux. Et c'est pour ça qu'on a, oui, les jambes plus gonflées, mais aussi, parfois, on sent que la tête, elle tourne davantage l'été. On peut plus facilement faire un coup de chaleur parce qu'on sait qu'on a des besoins hydriques augmentés pendant la grossesse. Et donc, si on a du mal à boire nos 2,3 litres d'eau habituels en hiver quand on est enceinte, eh ben, l'été, c'est possible que ça augmente encore plus ses besoins. Donc, oui, il faut être vigilant. Attention aux coups de chaud et au fameux conseil de pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. On reste à l'ombre et surtout, on écoute notre corps qui est notre meilleure boussole.
Alors, il peut y avoir une autre problématique pendant l'été, c'est l'absence du professionnel de santé.
Effectivement. Alors normalement, il a prévu ses vacances depuis un moment et donc il a anticipé, il en a parlé avec sa patientèle. Donc normalement, avant que notre professionnel de santé parte en vacances, on est au courant. Est-ce que quelqu'un le remplace ? Est-ce qu'il y a d'autres professionnels de proximité dont on a les numéros ? En tout cas, ce qui est important, c'est notamment quand on est enceinte et qu'on est censé avoir une consultation par mois médicale, d'être sûr d'avoir un suivi régulier. Si on est pris un peu de court, tiens, mon professionnel de santé est parti en vacances, moi aussi je pars en vacances et je me retrouve avec 6 semaines, 8 semaines sans consultation, dans ces cas-là, le mieux, c'est de regarder sur notre moteur de recherche préféré. Est-ce qu'il y a sage-femme, gynéco, médecin généraliste autour de chez moi qui est disponible pour qu'il s'écoule pas plus de, disons, 5 semaines sans une consultation pour vérifier que tout va bien. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, ça ne remplace pas une consultation médicale, mais au cas où, il y a quand même les téléconsultations qui permettent aussi d'avoir de poser des questions rapidement.
Et d'être rassuré.
Exactement.
Docteur Jules Fougère, vous êtes pédiatre aux urgences pédiatriques du CHU de Rouen. Est-ce que vous intervenez pendant la grossesse ou jamais ?
Alors, en tant que pédiatre, on n'intervient pas pendant la grossesse si la grossesse se passe bien. Par contre, dans les CHU et dans les CH en général, on peut intervenir s'il y a un risque de grossesse prématurée, puisque avec les sages-femmes, on aura un rôle d'aller informer les parents sur une prématurité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut entraîner comme problème de santé chez l'enfant, et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire dès la naissance du bébé pour mettre en place des choses pour qu'il grandisse au mieux, puisque c'est un bébé qui normalement devrait être encore dans le ventre de sa maman, et qui, malheureusement, parfois, arrive un petit peu tôt.
Oui. Alors, vous êtes pédiatre, mais vous êtes aussi un futur papa. Vous êtes donc doublement concerné par cette émission ce matin. Ma question, c'est, Là, votre femme, je crois qu'elle est à 6 mois de grossesse.
C'est ça.
Qu'est-ce qui prend le dessus ? C'est le médecin ou c'est le papa en ce moment ?
Alors, du coup, vous faites bien de le dire, parce que pour être tout à fait transparent, jusqu'à présent, je dispatchais des conseils que j'ai appris dans les livres et que j'ai appris aux urgences, mais que je ne pouvais évidemment pas appliquer moi-même. Et en novembre prochain, on devrait pouvoir les appliquer avec madame, qui est sage-femme aussi. Donc... En fait, on fait un peu des deux, c'est-à-dire qu'on est parents, on va s'inquiéter nous aussi, mais on connaît aussi les complications et du coup, on sait, on connaît les drapeaux rouges. Donc, j'ose espérer qu'on va rester avec un petit peu les mêmes automatismes, mais c'est sûr que ça va changer notre vision.
Ça va changer. Aurélie Calais, vous êtes psychologue, vous vous occupez des familles, vous avez des consultations dédiées aux familles en cabinet. J'aimerais qu'on parle des futurs papas, comme notre docteur. Souvent, ils se sentent exclus en ce moment si important de la vie qu'est la grossesse. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre activement part à cette grossesse ?
Déjà, je pense qu'important, c'est d'essayer de se rendre disponible pour tous les rendez-vous médicaux, pour les échographies, enfin voilà, déjà de s'impliquer au niveau des rendez-vous. Alors, il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas, mais bon, ça, c'est important. Et puis après, c'est vrai que de fait, quand les femmes sont arrêtées en congé maternité ou un petit peu plus tôt, le coparent va travailler, donc la conjointe, elle est toute seule à la maison, donc forcément, il est moins présent, moins là. Mais après, je pense que c'est aussi se renseigner, lire un peu des ouvrages en commun. Souvent, il y a plein de petites applications qui montrent la taille du bébé. Enfin, voilà, que le coparent l'est aussi pour regarder. Voilà, je pense qu'il faut avoir à peu près le même niveau d'information, ça aide déjà.
Est-ce que c'est important que le futur papa parle au bébé qui n'est pas né ?
Moi, j'aime pas trop dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais en tout cas, si ça fait plaisir aux deux parents de leur parler, de faire écouter de la musique, de chanter, c'est un moment sympa de partage. Il y en a qui ont l'impression de se connecter en faisant ça, il y en a qui font de l'autonomie, enfin... Moi, je trouve que tout est chouette.
C'est quoi l'autonomie ?
C'est en fait, on met ses... Enfin, peut-être Charline vous dirait mieux que moi, mais on met ses mains pour faire bouger le bébé, quoi, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une technique de préparation à la naissance et à la parentalité qui est vraiment basée sur le toucher, le contact et le lien, et qui se fait notamment en couple, effectivement.
Alors, moi, je fais un peu d'autonomie sans le savoir, hein, parce que le matin, je mets mes mains sur le ventre, et puis parfois, il me répond. Voilà, je lui parle avec ma voix un peu grave et suave, et je sens qu'il m'entend.
C'était le témoignage du docteur Jules Fougère.
Merci.
Papa. Aurélie Calais, la grossesse, c'est une période qui remue au sens propre avec bébé dans le ventre, mais émotionnellement aussi, bien évidemment. C'est souvent un chamboulement et a fortiori, pendant la dernière ligne droite, quelques conseils rapidement pour profiter de ces derniers moments à deux.
Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent et moi, j'ai l'impression, parce que souvent, moi, je vois les mamans enceintes quand elles viennent au cabinet pour consulter pour leur premier enfant, donc elles peuvent faire part de leurs craintes et tout ça. Je trouve qu'au dernier trimestre, au niveau des émotions, il y a plein de choses qui se mélangent, mais parfois, il y a un peu la crainte qu'il y ait un problème, qu'il y ait une maladie, que l'accouchement, c'est pas... on s'angoisse... on s'angoisse beaucoup. Je pense que le... Il faut avoir en tête, quand c'est son premier enfant, et on s'en rend compte dès le moment de la conception, qu'en fait, on ne peut pas maîtriser quand ça va marcher, quand ça va arriver. Idem pour l'accouchement, on peut avoir fait... Enfin, moi, j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement, je suis arrivée, c'est comme si je n'avais strictement rien fait. Bon, on peut essayer d'anticiper, de préparer, et voilà, être parent, en fait, c'est qu'on se dit qu'on ne maîtrise rien et que c'est les surprises.
Il faut l'accepter, en tout cas... On est fort de vos conseils ce matin. Charline Gaillot, notre sage-femme, l'a dit, l'idéal quand on est enceinte, c'est de continuer à être en mouvement, à bouger. Et c'est ce que je vous invite à faire sur le son de Celia Wa, Démounage.
You prendre des faits. Bisous, ligne avancée. De loin, ça palpine. Oh là là, j'en passe. Vous autres, nous, c'est ta Chine. Ton parole
Démonage.
France Inter.
Un bébé, c'est pas gérer une pâtisserie.
Est-ce que j'ai dit le contraire ?
Les bébés, c'est le bordel. Ça pisse partout, ça mord.
Grand bien vous fasse.
C'est un peu comme les chiens.
Yasmine Ouglisse.
Sauf qu'un chien, lui, il sait qu'il faut pas lécher les prises de courant.
Oh. C'est de l'humour, bien évidemment, je précise. Quelle aventure que la parentalité, on est tous d'accord sur ce plateau ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. On accompagne les futurs et les jeunes parents, je suis toujours en tournée de Charline Gaillot. Pas en tournée, ça peut être un jour que je serai en tournée, mais là je suis juste entourée de Charline Gaillot, sage-femme, du docteur Jules Fougère, pédiatre, de la psychologue Aurélie Calais, et nous sommes en ligne avec l'humoriste Rosa Burstein, enceinte de 7 mois. Bonjour Rosa.
Bonjour.
On est trop content que vous soyez notre envoyé spécial sur le front de la grossesse ce matin. Vous êtes dans votre dernier trimestre de grossesse. Du coup, comment allez-vous ?
C'est ça. Eh ben, ça va. Là, je suis au frais en Bretagne avec un peu de soleil, un peu de vent. Donc, beaucoup plus au calme que la semaine dernière où je jouais encore au Festival d'Avignon. Donc, alors, enfin en vacances.
Vous avez toute notre admiration parce qu'effectivement, vous avez joué votre spectacle dédoublé enceinte, mais jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à samedi dernier, vous avez enchaîné 6 dates à Avignon. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Être sur scène enceinte ou être enceinte en pleine canicule quand on y était fin juin ?
Oh bah, vraiment la canicule de loin, beaucoup plus difficile, ouais. Non, parce que sur scène, il y a déjà beaucoup d'adrénaline, ça dure qu'une heure vingt, il y a de la clim dans la salle, et puis...
Mais 1h20, debout, moi, à votre place, j'avais très très mal au dos, hein, je pouvais pas me déplacer.
Mais c'est vrai que pendant une heure, on oublie. Enfin, la douleur disparaît. C'est plus après, disons que c'est ce mois-ci où le bébé a changé de position, où d'un coup, je me disais, oula, mais qu'est-ce que j'ai sur ma vessie? Et donc, c'était la tête du bébé. Et c'était plutôt pour marcher dans la rue, ou en sortant, d'un coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus dur. Je suis beaucoup plus essoufflée. Disons que je devais couper les phrases en deux. C'est un peu comme les repas que j'ai fractionnés. J'ai un peu aussi fractionné mon débit. Mais c'était pas les mêmes sensations. Par exemple, hier, quand on est venu en Bretagne, c'était très dur en voiture, sur l'autoroute, d'avoir tout le temps envie de faire pipi et de se dire « Ah bon, bah, il faut trouver encore une aire d'autoroute pour s'arrêter. » Toutes ces sensations disparaissent un peu sur scène. Donc, la vie plus difficile que la scène, je dirais.
Alors, cette grossesse, vous l'avez utilisée pendant votre spectacle. On vous écoute.
Aujourd'hui, ça fait 6 mois et quelques, je crois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je suis un peu essoufflée. Et parfois, quand je bois, ensuite, ça régurgite. Vous ne me voyez pas quand je me ressens de Dorothée. J'aurais peut-être pas dû vous dire. Après, je me fous de la gueule de mon copain qui est dyslexique. Moi, je suis dyscalculique. Voilà. Donc, quand les sages-femmes nous parlent de semaines d'aménorrhée, je fais toujours semblant de comprendre, tu vois. Donc, je sais pas, 6 mois, 8 mois, ça se trouve, j'accouche demain. Voilà.
Qui n'a pas fait semblant de comprendre les semaines d'aménorrhée? Franchement, je suis totalement avec vous. Est-ce que cette grossesse, le fait de l'assumer sur scène et d'en parler, ça a changé vos interactions avec le public?
Ouais, ça permet d'un coup de mettre des mots sur des phénomènes. Je pense en toute sincérité, ce qui a aussi beaucoup changé pour moi et le retour très fort que j'ai eu du public, ça a été à l'intérieur du spectacle de parler des deux fausses couches qui ont précédé cette grossesse. Voilà, parce que de pouvoir en rire et moi d'avoir cet exutoire, ça m'a servi à guérir de la tristesse. Et puis beaucoup de femmes sont aussi venues m'en parler après. Et parfois, j'ai des retours de femmes qui ont vécu la même chose et qui n'en ont jamais parlé. Et pas à leurs amis, pas à leurs parents. Et pour qui ça crée quelque chose de très fort d'en entendre parler sur scène. Donc voilà.
Vous parlez de réactions des femmes qui ont été vos spectatrices. Est-ce que vous avez pu recueillir des réactions d'hommes aussi qui étaient surprenantes peut-être?
Les hommes rigolent. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu didactique parfois. C'est vrai que je raconte notamment à un moment des symptômes, par exemple pour la deuxième fausse couche, et où je dis que j'étais persuadée d'être enceinte. C'était un œuf clair, mais parce que j'avais tous les symptômes, notamment les douleurs ligamentaires à la vulve. Et puis je fais des parallèles pour les hommes. Donc ils ouvrent de grands yeux, un peu effrayés, mais ils rigolent. Donc oui, je pense qu'il y a quand même un bon effet pour eux aussi.
Alors, vous accouchez en septembre et j'ai vu que vous aviez prévu de remonter sur scène le 3 décembre. C'est donc à peu près 3 mois après avoir accouché. Comment est-ce que vous avez choisi cette date ?
Alors, j'ai pas tellement choisi. J'accouche le 12 octobre, donc hélas, je remonte sur scène encore plus tôt que ça. J'avais déjà décalé des dates. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, vu mon parcours, la première fausse couche, pour le coup, est arrivée quasiment au bout de 2 mois et demi. Ça fait déjà d'un an que c'est très compliqué de gérer une tournée, parce qu'il faut tout le temps reporter, annuler, décaler des dates, puis on reporte. Puis finalement, on aurait pu les maintenir. Ces dates, à partir de décembre, j'ai décidé de les conserver parce que finalement, on attend ces 3 premiers mois. Je me disais, je ne prends aucune décision pendant ces 3 premiers mois. Puis les 3 premiers mois passés, j'avais encore peur. J'ai commencé vraiment à me projeter sur cette grossesse pratiquement qu'au moment où le bébé a commencé à bouger, pour vous dire la sincérité. Je pense qu'on partira en tournée avec mon copain, le bébé, on s'organisera. C'était pas vraiment un choix, une décision, ça a été un petit peu, j'ai fait comme j'ai pu. C'est vrai qu'on parle souvent des concessions, des sacrifices et de la difficulté pour les femmes de marier maternité et carrière, mais il y a un vrai enjeu aussi dès le moment de la procréation, quoi, pour travailler et trouver des solutions.
Et d'autant plus quand on a un métier spécifique. Mmh. Alors vous, Charline Gaillot, vous êtes sage-femme, vous accompagnez ces femmes aussi dans leur retour dans la vie professionnelle. Quand elles ont un métier qui ne leur permet pas de prendre un congé maternité qui soit long, qu'elles doivent reprendre le travail, comment vous les accompagnez?
C'est hyper intéressant tout ce que Rosa partage, parce que c'est vraiment la réalité des femmes. C'est, il y a la théorie, voilà, en théorie, on prend le plus de temps possible, et il y a comment on fait dans la vraie vie. Et bien, dans la vraie vie, moi, ce que je fais avec mes patientes, c'est que je les questionne sur ce qui est justement de l'ordre du, c'est obligatoire, on peut pas le repousser, comment je me sens, et comment on peut s'adapter. Comme là, Rosa le disait, ils y ont réfléchi en couple, avec le conjoint, et ça, c'est déjà un super premier conseil, voire évident, et c'est comment on peut autour de soi créer ce fameux village pour élever cet enfant. Comment il y a notre conjoint, mais peut-être nos parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Comment autour de nous on peut avoir tout ce village qui peut aussi nous soutenir, de sorte à ce qu'on puisse reprendre cette activité professionnelle.
C'est très important ce que vous dites ce matin toutes les deux, rapport au fait que cette émission s'adresse aux futurs parents, aux jeunes parents, mais également à leur entourage, et que chacun peut prendre part à ce moment clé de la vie. Alors Rosa Burstein, si je vous demandais de noter votre bien-être pendant cette grossesse de 1 à 10, vous donneriez quel chiffre ?
Oh, en fait, c'est, j'aurais envie de donner des chiffres par trimestre ou par mois.
Par jour même.
Par jour, vraiment sur les trois premiers mois, je dirais zéro. Enfin, j'ai vécu l'enfer, mais je pense qu'il y avait aussi un côté très angoissé et même physiquement, beaucoup de nausées, beaucoup de symptômes, enfin vraiment très difficile. Et à partir du sixième mois, je dirais 7, parce que même si, comme je le dis sur scène, il y a eu les remontées acides, alors le sacrifice de ne pas manger de tomates ni de manger de gazpacho l'été, mais d'un coup, la joie et le soulagement prennent une telle place, la complicité avec l'amoureux, que, bon, bah, on vit beaucoup mieux tous ces symptômes.
Donc, au global, c'est 7. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. J'ai consulté les chiffres de l'enquête périnatale, alors 2021, communiquée par Santé publique France, et elle révèle que la grossesse a été pour les futures mères une période agréable à vivre pour 32,9% d'entre elles, assez agréable à vivre pour 51,6%, difficile à vivre pour 11,6% et très difficile à vivre pour 3,9%. Ça fait quand même si je ne suis pas très forte en maths, à peu près 15% qui l'ont trouvé difficile, voire très difficile. Mmh. Aurélie Calais, vous qui êtes psychologue, la perspective de devenir mère peut chambouler l'équilibre psychique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
En fait, il y a d'abord tous les chamboulements hormonaux, au niveau des émotions, enfin voilà, toutes celles qui ont été enceintes peuvent vous dire, on passe du rire aux larmes, ça va bien, ça va plus. Après, même ce que décrit Rosa, c'est hyper intéressant. Il y a aussi, s'il y a eu des grossesses avant, comment ça s'est passé, comment on va se projeter, si on est dans l'angoisse, enfin voilà, il y a tous les facteurs. Et puis après, il y a les facteurs environnementaux qui fait que, bah, est-ce que autour de moi, il y en a qui, pendant leur grossesse, subissent des deuils de leurs parents, une perte de boulot, enfin, il peut y avoir des choses un peu traumatiques à côté qui vont forcément plus nous impacter, et d'autres qui sont plus chanceuses où tout est super aligné, tout le monde est là, tout va bien, le couple va bien, enfin voilà, donc...
Alors, on a sur ce plateau Rosa Burstein, qui est enceinte et qui va accoucher d'ici quelques mois. On a aussi le docteur Jules Fougère, qui est concerné par cette question en tant que futur père. Je vous pose d'abord cette question à vous, Rosa Burstein. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus sur cette nouvelle vie qui vous attend ?
Oh, c'est de la rencontrer. Je peux vous dire là en direct, exclusivement pour vous, parce que j'en ai discuté avec mon copain, il m'a autorisé, mais c'est une petite fille.
Ah
j'ai hâte de la rencontrer, de découvrir sa personnalité. C'est vrai que sur une échographie, je crois que c'était au deuxième trimestre, elle avait tiré la langue. Et puis, donc, résultat, je me suis dit, ah, c'est chouette, elle est insolente, elle fait des blagues.
Elle est comme sa maman. Docteur Jules Fougère, vous êtes prêt, vous ?
Ah écoutez, je fais des grasses maths. Je fais des grasses maths actuellement parce que je sais que bientôt, ça sera terminé.
Vous faites le stock de sommeil. Un grand merci, Rosa Burstein, d'avoir été avec nous ce matin. Bon repos à vous. On
merci
viendra
beaucoup.
Évidemment vous applaudir dès le mois de décembre pour la reprise de votre spectacle Dédoublé. On note que vous serez au Paradis Latin le 20 janvier 2026. On vous envoie toutes nos bonnes ondes et on vous embrasse, Rosa Burstein.
Merci, bisous.
Alors, on a beau essayer de se préparer à l'arrivée d'un enfant, ce qui fait le sel de ces moments-là, et Aurélie Calais le disait tout à l'heure, c'est aussi tout ce qu'on n'avait pas prévu. On en parle après MGMT Kids. C'est MGMT Kids.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis. Sur France Inter.
Alors, on l'a attendu, on a tout préparé. Voilà que l'enfant arrive. Il est là. C'est le moment des premières découvertes, du premier roux, du premier bain, de la première sortie, mais aussi des premières inquiétudes. Si vous êtes dans ce cas, si vous souhaitez rassurer vos proches, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous écrire via l'appli Radio France. Charline Gaillot, d'après votre expérience de sage-femme, quelle est la première inquiétude des jeunes parents?
De ne pas y arriver. D'être un mauvais parent pour leur enfant. Je crois que c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je fais assez bien. Il y a vraiment cette peur de ne pas réussir. Comme si la parentalité, c'était quelque chose à réussir comme un examen et non pas quelque chose à vivre et dans lequel progresser. Et on a l'impression que c'est un peu une phrase pompeuse de dire « vous êtes le meilleur parent pour votre enfant ». Et pourtant, c'est bien vrai. On peut tous donner des conseils autour de la table. Les seules personnes qui passent du temps avec leur enfant, ce sont les parents. C'est eux qui se réveillent la nuit, c'est eux qui changent sa couche, c'est eux qui le câlinent. C'est eux qui sont capables d'entendre les messages de leur enfant, de s'adapter et d'apprendre. Donc c'est normal d'avoir l'impression d'être nul quand on devient parent, mais il n'y a pas que le bébé qui vient de naître, il y a aussi le parent, les parents.
Qui deviennent parents. Alors docteur Jules Fougère, vous êtes en première ligne en tant que pédiatre au moment de la naissance. Les parents, vous les retrouvez dans quel état à ce moment-là?
On les retrouve, alors souvent en effet, comme dit Charline, on les retrouve inquiets au début. Et puis nous on essaye de rappeler qu'il y a la théorique, et la pratique, c'est hyper important, parce qu'on est là, nous, professionnels de santé, pour donner la théorie, pour donner les infos, pour aider les gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'avoir des choses auxquelles se raccrocher. Mais il faut rappeler qu'il faut se faire confiance aussi, et que si son enfant grandit bien, grossit bien, qu'on est heureux, que ça se passe bien, c'est bête à dire, mais c'est important. Et du coup, on retrouve des parents un peu plus soulagés quand déjà on leur fait comprendre ça.
Alors là, je l'ai dit, dans deux jours, on est au mois d'août, il est tout à fait possible qu'on subisse à nouveau une vague de chaleur semblable à celle qu'on a connue il y a quelques semaines. Du côté du bébé, est-ce qu'on a des précautions à prendre?
Bien sûr. Alors, les précautions à prendre, ça part du principe qu'un bébé qui transpire va avoir beaucoup moins d'eau dans le corps qu'un adulte. Donc, vous allez transpirer, vous allez avoir soif. Il faut imaginer que les bébés vont transpirer aussi, tout comme vous. Ils vont se déshydrater beaucoup plus vite. Deuxième chose, ils ne vont pas forcément être capables de nous dire, sauf s'ils sont hyper précoces, à l'âge de 2 mois, papa, maman, voilà, ça ne va pas, j'ai chaud. Donc, c'est à nous de reconnaître ces signes. Souvent, les parents nous demandent comment est-ce qu'on doit habiller l'enfant. Il n'y a pas de règle exacte. On dit souvent une couche de plus que nous. Donc, voilà, si il fait hyper chaud, on va le laisser en body. Si nous, on est en t-shirt, un petit pull. Et puis, on va l'hydrater. Surtout, 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 on en parle tout le temps. Tout le monde le sait, mais il faut l'hydrater. Si c'est un bébé allaité, on le met au sein à la demande et même un peu plus souvent. Si c'est un bébé au biberon, on va lui proposer aussi régulièrement du lait en cas de grosse chaleur.
Pas d'eau?
Alors, ça, c'est vraiment une question que beaucoup de gens se
posent.
Est-ce
que c'est une bonne question?
Souvent, on dit, c'est une bonne question, Yasmine. Souvent, on dit qu'avant 6 mois, il ne faut pas donner d'eau. Attention, ce n'est pas négatif en cas de grosse chaleur de donner un biberon d'eau entre 2 biberons de lait. Si un bébé est allaité, on va le mettre plus souvent au sein, comme je le disais. Mais ce n'est pas interdit de donner de l'eau. On dit que jusqu'à 6 mois, on n'en donne pas beaucoup, il faut éviter. Mais en cas de grosse chaleur, on a le droit.
La clim, bonne ou mauvaise idée?
La clim, il n'y a pas d'étude qui dit pas de clim, clim. Encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Je pense que l'important, c'est d'avoir une température qui est confortable pour tout le monde, entre 18 et 20 degrés. Et du coup, s'il fait hyper chaud, de mettre un peu d'air plus fraîche, si ce n'est pas en direct sur le bébé, pourquoi pas.
Il faut que ce soit quand même tempéré. Alors, vous vouliez profiter de votre venue ce matin dans notre studio pour alerter sur un danger auquel on ne pense pas forcément, celui d'oublier son bébé dans la voiture.
Oui, ça peut paraître complètement lunaire quand on en parle, que ce soit sur les réseaux, à la télé, on peut oublier son enfant dans la voiture. Or, vous avez tous vu des articles sur Internet de gens qui oublient leur bébé dans la voiture. Comment ça peut arriver? Tout simplement parce que si on prend une habitude différente de d'habitude, ce qui ne veut rien dire, cette phrase, évidemment, vous allez emmener votre bébé, alors que d'habitude, c'est le coparent qui l'emmène, ou d'habitude, c'est mamie et papy, et puis le bébé dort, il est dos à la route, donc du coup, vous ne le voyez pas, vous pensez à autre chose, il y a un problème au boulot, vous avez un problème de santé, puis vous sortez, et là, waouh, ça vous passe par la tête, ça peut aller très vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne laisse jamais un bébé dans sa voiture, même si on va faire 2-3 courses, même si on passe à la boulangerie, il peut nous arriver quelque chose, et c'est hyper dangereux. Et un petit truc qui est tout bête, mais mettez un objet que vous n'oubliez jamais. Alors, ça peut paraître vraiment débile, mais un objet sans lequel vous n'allez pas, vous ne sortez pas. Votre sac à main, votre portefeuille, votre téléphone à l'arrière, comme ça, vous allez le chercher, vous voyez votre bébé, ça peut paraître vraiment bête, je vous assure que ça peut sauver, et ça peut donner un réflexe et éviter les catastrophes.
Ce n'est pas que de la théorie, puisque vous m'avez dit hors antenne que récemment, au CHU de Rouen aux urgences, ce cas s'est présenté. Autre préoccupation majeure des jeunes parents, le sommeil. Alors, on connaît tous au moins un couple d'amis qui nous a dit « Même moi, elle fait ses nuits depuis la sortie de la maternité ». Ce matin, on veut savoir si ça existe vraiment, docteur Jules Fougère.
Alors, j'aimerais, et je l'espère pour novembre que ça change d'ici là. Mais alors, il faut savoir qu'un bébé, déjà dans le premier mois, ça dort tout le temps. C'est-à-dire que ça dort, ça se réveille pour manger, ça dort, les phases d'éveil durent 30 à 60 minutes, ça dort vraiment beaucoup, mais ça a besoin de manger aussi régulièrement, et entre autres la nuit. Donc dans les premiers mois de vie, jusqu'à 4 à 6 mois, il va y avoir des réveils nocturnes pour se nourrir. Après 4 à 6 mois, chez certains bébés c'est plus loin, chez certains bébés c'est plus tôt, on peut espérer des nuits un peu plus longues et parfois un arrêt de réveil nocturne, mais c'est vrai que c'est enfant dépendant.
Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, ça passe. Aurélie Calais, vous avez écrit avec Clémence Prompsy le livre « Je ne dors pas ». Vous avez mis des consultations en place spéciales dédiées au sommeil. Est-ce que vous avez réussi à identifier un facteur commun chez ces enfants qui ne dorment pas ?
Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, en tout cas dans le cadre des consultations sommeil, c'est d'abord écarter, être sûr que les parents aient bien vérifié tous les freins au sommeil qui peuvent être des freins physiques. Si on est sur un bébé qui souffre, qui a mal, qui a un RGO non détecté.
Reflux gastro-œsophagien, le RGO.
Exactement. Voilà, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire une consultation sommeil sur un bébé où on n'est pas certain que toutes les causes médicales ont été écartées. Après, au niveau psychologique, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, ils ont accès à beaucoup, beaucoup d'informations, ce qui est super par rapport, je pense, à l'époque de nos parents, etc. Mais par contre, en fait, ce que disait Charline tout à l'heure, en fait, les gens, ils oublient leur instinct. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai lu ça, donc je fais ça. Et en fait, à aller contre notre instinct de parent, qui est dans 99,9% du temps, le bon. Souvent, après, quand on leur dit, faites ci, faites ça, ils disent, ah bah, j'y ai pensé, mais je ne me suis pas écoutée. Donc, il y a aussi toutes les causes psychologiques qui peuvent être liées à une grossesse, à un accouchement traumatisant, à quelqu'un qui a dû renoncer à son allaitement parce que le coparent a demandé, parce qu'on lui a dit, maintenant c'est trop tard. En fait, quand on ne s'est pas écouté soi-même, qu'on fait des choix sur les conseils de l'entourage ou si sur ce qui paraît être bien, en fait, après, on ne le vit pas bien. Et bah forcément, le bébé le ressent. Voilà.
Le bébé ressent tout, ouais. En fait, toutes les émotions de ses parents.
Bien sûr.
Oui, c'est ça, ça c'est très important. Docteur, à chaque époque, c'est mode de coucher. Si on écoute ma mère, par exemple, quand je suis née, il fallait mettre le bébé sur le ventre. Quand mon fils est né, on m'a conseillé un matelas spécial qui lui permettait d'être dans une position soi-disant physiologique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ?
Alors, ce qu'il en est, c'est que ça fait maintenant beaucoup d'années, plus de 25
ans.
Oui,
j'ai 44 ans, hein,
voilà. Je ne voulais pas vous vexer. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, c'est dans son propre lit, vraiment au maximum. Encore une fois, c'est la théorique, mais voilà comment se rapprocher au mieux de la théorique. Un bébé sur le dos, dans son propre lit, sur un matelas ferme, avec le moins de choses dans le lit, pas de tour de lit, pas d'oreiller, pas de couverture, il n'en a pas besoin. Après, il faut garder en tête que avoir un lit cododo qui est collé au lit peut aider les parents pour, voilà, par exemple, allaiter ou pour donner,
allaitent,
voilà,
oui.
Exactement, pour donner le biberon la nuit. On va éviter au maximum de partager le même lit. Alors on sait, voilà, que ça augmente le risque de mort inattendue du nourrisson. Maintenant, je veux quand même dire un petit truc, parce que ça arrive qu'on ait des patients qui nous disent « Je n'y arrive pas, je ne peux que le faire dormir avec moi dans le lit. » Donc, Ça sert à rien de leur dire, bah, c'est pas comme ça, c'est trop risqué. Il faut quand même leur offrir des possibilités, des solutions. Dans ce cas-là, il faut savoir que si on n'arrive pas à faire autrement, eh bah, faut au moins mettre tous les risques de côté, c'est-à-dire ne pas le mettre, le bébé, entre les deux parents, éviter la couverture, éviter l'oreiller, éviter les choses lourdes. Voilà, ça sert à rien de dire aux parents, c'est pas comme ça, il faut pas, parce qu'on se retrouve avec des patients qui nous disent plus la vérité, des patients qui sont, voilà, qui ne vont pas bien, qui ne dorment pas bien. Mais voilà, le mieux, bébé dans son lit, si on y arrivait sur le dos, sans rien dans le lit.
Vous parliez du cododo, de l'allaitement, Charline Gaillot, en tant que sage-femme, vous le savez, l'allaitement, c'est souvent source de questionnement. Chaque femme est libre de décider si elle va opter pour l'allaitement ou pour les biberons, mais encore faut-il qu'elle soit bien informée. C'est vous qui les informez sur ce sujet, qui les accompagnez ?
Alors, effectivement, en tant que sage-femme, on a un rôle primordial pour informer sur l'allaitement. Et ce que vous avez dit, c'est très juste, c'est il faut choisir. Mais pour choisir, il faut avoir une information complète pour faire un choix éclairé. Et cette information, elle n'est pas toujours si simple à avoir. Encore faut-il avoir fait de la préparation à la naissance ou avoir une sage-femme qui fait notre suivi obstétrical tout au long de la grossesse. On a également les consultantes en lactation. Moi, ce que j'invite toutes les femmes à faire, c'est, peu importe le projet initial, en tout cas, c'est de se renseigner. Même aujourd'hui sur Internet, en écoutant des podcasts, en écoutant des émissions radio, en lisant des livres, se renseigner pour vraiment choisir, parce que c'est difficile aujourd'hui de choisir tout en sachant qu'il y a quand même encore beaucoup d'injonctions et beaucoup de remarques sur le choix d'allaiter ou non. Mmh. Selon notre entourage proche, tout le monde a toujours un mot à dire. Enfin, tu ne pourrais pas ne pas allaiter. Ou, mais attends, tu penses allaiter combien de temps ? Donc, peu importe ce qu'on choisit.
Ça, il faut le mettre à distance, on est bien d'accord.
Il faut le mettre à distance.
Il faut s'écouter et peut-être, voilà, essayer en tout cas d'aller vers l'allaitement. Alors, dans la liste des angoisses des parents, on a dit, il y a le sommeil, il y a parfois l'allaitement. Il y a les pleurs de bébé, c'est stressant. Les parents peuvent se sentir impuissants. Mais il existe aujourd'hui des cours pour apprendre à décrypter les pleurs.
Un des premiers besoins vitaux du bébé, c'est la faim.
Le son na, un pleur de faim commun à tous les bébés du monde. La preuve avec le petit Paul né il y a un mois.
Là, on a un parfait na. Vous l'entendez ? Donc ce petit garçon, voilà, là, il nous montre qu'il a vraiment faim. Et puis il commence à avoir bien faim, donc il s'énerve un petit peu en même temps.
De savoir que c'est aussi clair, en fait, non, c'est la première fois que j'identifie.
Après le pleur correspondant à la faim, Isabelle décrit celui du sommeil.
C'est un son qui est très visuel. C'est un son issu du réflexe du bâillement. Les bébés ont une bouche ouverte quand ils pleurent. Mais là, ce qui est spécifique, c'est vraiment que les commissures sont un peu étirées, ce qui donne cette forme de ballon de rugby.
Alors, c'est un extrait des reportages de la Maison des maternelles de 2018 qui a été diffusé sur France 5. Aurélie Calais, vous qui êtes psychologue, vous connaissez ce décryptage des pleurs de bébé ?
Oui, c'est ce qui s'appelle le DBN, le Dunston Baby Language, qui vient donc de cette femme qui porte ce nom-là. Sans vous dire de bêtises, je crois qu'elle était musicienne avec l'oreille absolue. Et quand elle a eu son premier bébé, elle s'est rendue compte au fur et à mesure qu'il grandissait que tel pleur, en fait, à chaque fois, bingo, je donne un bib, il avait bien faim. Ça, il est fatigué, je le couche, ça marche. Et donc, en fait, elle a fait des espèces de tutos sur Internet. Elle a fait un livre, des trucs sonores et tout ça pour vous aider à reconnaître, en fait, comme une espèce de décodeur de pleurs de bébé. Le risque de ça, c'est que si jamais vous écoutez ça, vous vous dites « Ok, super, je vais pouvoir comprendre tout ce que me dit mon bébé », et puis en fait, vous tendez l'oreille et vous ne comprenez rien, ça peut arriver. Mais sachez que même sans cette méthode, quand vous serez à votre deuxième enfant, vous allez tout comprendre immédiatement. Il y a aussi une question d'habitude et de... Et puis quand c'est votre bébé, au début, on ne comprend rien, c'est comme si on était dans un pays étranger, qu'on ne comprenait pas du tout la langue, et puis au bout de quelques temps, on comprend. Voilà, mais donc il y en a pour qui ça marche
bien. Alors quand on est grand-père ou grand-mère, là... On sait, voilà, on a le recul et c'est formidable. Je plaisante, mais c'est vrai que les pleurs de bébé, c'est quand même ce qu'il y a de plus stressant, je le disais. Et ça, docteur Jules Fougère, vous vouliez en parler.
Oui, puisque tout le monde n'a pas ni décodeur, ni oreille absolue, malheureusement. Mmh. Donc, l'idée, c'est encore une fois de se faire confiance. On va remarquer certains pleurs qui sont « mon bébé a faim », qui sont « mon bébé est inconfortable ». Mais il ne faut pas oublier qu'un bébé, encore une fois, encore s'il est hyper précoce, il ne va pas parler tout de suite. Mmh. Donc, sa seule façon de s'exprimer, au début, ça va être des pleurs. Et c'est une des consultations les plus fréquentes aux urgences pédiatriques. C'est des parents qui n'en peuvent plus parce qu'un enfant pleure. Et il faut se rappeler quelque chose, c'est que lorsqu'on a vérifié que son bébé a la couche propre, qu'il a bien mangé, qu'il n'a pas de température, qu'il n'a pas de choses qui peuvent lui faire mal, si on n'en peut plus quand on a un enfant qui pleure, il faut accepter de le poser dans son lit, en sécurité, et de sortir de la pièce et de faire appel à un ami, à un voisin, à un copain, aux coparents, et de sortir. Parce que le syndrome du bébé secoué, ça existe vraiment. Et c'est une catastrophe qui peut arriver en cas vraiment de gens qui sont au bout du rouleau. Donc acceptons de laisser son bébé en sécurité dans son lit. Il faut, c'est vraiment important.
S'il y a une arme précieuse qui permet de supporter plus facilement les tracas de la parentalité, c'est bien l'humour. Et le rire, c'est ce dont nous parle Daniel Byrne dans Everybody Loves.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Phone in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face. Every change of heart and every saving grace, every song we sing and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Everybody loves.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
On est de retour dans Grand Bien vous fasse avec nos experts pour parler des futurs et des jeunes parents. Un thème qui vous inspire, en tout cas qui vous fait réagir. Vous nous avez envoyé des messages. Je vous lis celui de Sylvie qui me dit « J'ai accouché un 30 juillet, donc comme aujourd'hui, un anniversaire en pleine vague de chaleur à plus 7 jours après avoir vomi 9 mois. Mon fils a survécu comme tous les aînés à l'incompétence de ses parents, donc ne vous inquiétez pas. » Un autre message rassurant de Juliette, elle dit « Il faut s'écouter, sentir les choses et tout se passe super bien. Se faire confiance. » Alors, c'est super d'avoir ces témoignages, en fait, de, voilà, pour vous rassurer. Mais c'est vrai que les parents, en 2025, sont submergés d'informations contradictoires entre les réseaux sociaux, les journaux spécialisés. Et, en fait, ils peuvent être tentés de suivre un mode d'éducation à la mode, justement, puis un autre, et être complètement déroutés avec à la clé l'épuisement. Charline Gaillot, vous êtes sage-femme, vous êtes en première ligne puisque vous continuez à voir les femmes après leur accouchement. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler du baby blues ?
Oui, alors effectivement, le baby blues, c'est un phénomène tout à fait normal et extrêmement fréquent qui touche 70% des femmes qui viennent d'accoucher. Et c'est un trouble de l'humeur passager comment ça se manifeste concrètement? C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes qui interviennent généralement entre le deuxième jour après l'accouchement jusqu'à peu près le septième jour. Et dans les pleurs, il n'y a pas forcément que des pleurs de tristesse ou de doute, il y a aussi parfois des pleurs d'émotion. On ne sait pas pourquoi, on a l'impression que nos émotions sont en roue libre. Ça, c'est Baby Blues et ce n'est pas inquiétant parce qu'il est censé partir tout seul.
C'est un pic hormonal.
C'est une chute suite à une chute hormonale.
Oui. Enfin, c'est les hormones quand même.
Exactement, c'est suite à la chute hormonale.
Ce qu'on doit retenir, c'est que ça passe.
C'est que ça passe, contrairement à la dépression du postpartum qui, elle, doit plutôt nous alerter. C'est que si on a plutôt de la tristesse intense, des pleurs qui continuent, des troubles du sommeil non liés au réveil répétitif de notre enfant, des troubles de l'appétit, des difficultés à voir l'avenir de manière positive, on sent vraiment qu'on, comme si on portait un poids quotidiennement, on ne se reconnaît pas et ce pendant plus de 14 jours d'affilée. Dans ces cas-là, c'est important de s'alerter.
Et donc dans ces cas-là, vous conseillez aux parents d'aller consulter, j'imagine. Vous, docteur Jules Fougère, vous êtes pédiatre. Est-ce que les pédiatres sont formés aussi pour percevoir les premiers signes d'une dépression chez les parents ?
Alors, on est formé parce que quand on travaille aux urgences, quasiment tous les pédiatres font des gardes aux urgences, en tout cas quand on travaille dans un hôpital, eh bien, on reçoit des parents qui sont, comme on le disait tout à l'heure, un peu au bout du rouleau, ça arrive, parce que l'enfant pleure beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de reflux, parce qu'il mange pas bien, parce qu'il prend pas énormément de poids. Et parfois, nous, médicalement, on a un enfant qui va plutôt bien, mais on n'arrive pas à rassurer les parents. Et ça, ça arrive. Et on sent que c'est aussi une fatigue parentale, et on leur explique. Et eux, ils nous tendent une perche, et ils ont besoin d'aide. Donc ça arrive aussi. Lorsque vous êtes vraiment au bout du rouleau, vous pouvez consulter aux urgences. Et nous, on est aussi là pour dire, OK, on va prendre l'enfant, on va le mettre en hospitalisation avec vous. Hein. On ne dit pas aux parents de rentrer chez eux, mais par contre, on les invite à aller se reposer à la maison. On les invite à gagner des heures de sommeil en leur disant, voilà, vous avez aussi le droit de craquer, on est aussi là pour ça. Et on hospitalise parfois des enfants pour réassurance parentale quand les parents sont vraiment à bout.
Ça s'appelle une hospitalisation de répit, je crois.
Oui, c'est ça, on fait des hospitalisations de répit. Ça arrive et les parents souvent nous en remercient parce qu'ils sont à deux doigts de faire des bêtises. Et ils nous le disent, quoi.
Ils peuvent être aidés, et ça, c'est important de le dire. Aurélie Calais, en tant que psychologue, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les injonctions à être une bonne mère peuvent accentuer un sentiment de mal-être chez les jeunes mamans ?
En fait, je trouve que c'est valable dans la parentalité, mais c'est un peu la société aujourd'hui. Il faut être performant partout, et encore plus quand on devient parent. On nous donne comme injonction qu'il faut que tout soit bien. Ce que vous disiez au début, il y en a qui vont dire, moi, il dormait des 2 mois. Donc, il y en a qui vont se dire, ben mince, moi, ça fait 6 mois, il dort toujours pas. Donc, c'est que, en fait, toujours le parent va se dire, c'est que je fais quelque chose de mal. Donc, comme le parent se remet en question, en fait, il va oublier son instinct, il va changer sa façon de faire, or qu'a priori, c'est ce qui convenait le mieux à son bébé, vu que c'est celle qui avait été mise en place, en disant, bah voilà, quelqu'un a l'air d'être plus sachant que moi, et je parle même pas de pro de santé, la voisine, la collègue de travail qui dit, non mais attends, moi ça a marché, donc tu devrais pas faire comme ça. Donc vraiment, la perfection, et d'abord, le parent parfait n'existe pas, ça c'est important, et puis pour votre bébé, vous êtes le parent parfait pour lui, avec vos imperfections, avec vos doutes, enfin voilà, vous apprenez avec votre enfant à devenir parent. Donc en fait, il faut vraiment, enfin je veux dire, être un parent parfait, c'est hyper ennuyeux, même pour son enfant, c'est pas marrant quoi.
De toute façon, c'est pas possible, je crois.
Mais c'est pas possible.
On verra ça en novembre, en fait.
Ah oui, vous concernant, on a hâte vraiment de vous découvrir en tant que père, docteur Jules Fougère. Vous avez raison, Aurélie, de parler de parents, puisque la dépression du postpartum, elle ne touche pas que les jeunes mères, elles peuvent aussi toucher le coparent. Charline Gaillot, en tant que sage-femme, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, ce serait, dans l'idéal, de créer un village autour des jeunes parents, pour les entourer et pour leur donner de la force. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous les trois parce que vous nous avez vraiment donné ce matin des réponses claires et rassurantes pour nos auditeurs. Aurélie Calais, je rappelle le titre de votre livre « Je ne dors pas, guide pour les parents qui veulent retrouver le sommeil ». C'est chez Deux Books Supérieurs. Vous avez aussi mis en place des consultations sommeil au sein de votre cabinet Kids & Family. Jules Fougère, votre guide anti-panique pour les jeunes parents est toujours disponible chez Marabout. On vous retrouve à la rentrée dans la maison des maternelles en tant que chroniqueur pour distiller tous vos conseils. Charline Gaillot, on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, mais vous avez aussi sorti un guide, le grand guide de ma grossesse sereine. Hésitez aussi chez Marabout. Je rappelle qu'on était aussi ce matin avec Rosa Burstein, qu'on embrasse et qu'on remercie d'avoir été avec nous. On lui souhaite une belle fin de grossesse et on a hâte d'aller l'applaudir pour son spectacle des 12. redoubler. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'accompagne chaque matin. Sans eux, pas d'émission. Maria Pasquet à la réalisation, Loïs Moreau et Rémi Sissiaga à la technique, Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noélia Filiol et Lina Garcia, mes bonnes fées, à la préparation. On se retrouve demain à 10h pour apprendre à aimer les insectes. Oui, oui, oui. À suivre, on va déguster avec François-Régis Gaudry et la passion des cookies.